aboutirent à la division de la République une et indivisible en deux camps, chacun tirant à soi l'histoire pour la confisquer à son profit. D'un côté, un front dit populaire, composé des différentes gauches, qui bientôt s'entre-déchirèrent pour finir par s'entre-détruire, et de l'autre, un front dit national, formé des droites coalisées, des plus honorables aux plus extrêmes, sourdes à la voix d'un peuple poussé à bout par des décennies de misère, et qui refusait de s'incliner devant la nouvelle République obtenue par le suffrage universel. Vous avez faim? Mangez la République. Le 31 mars 1934, le monarchiste Antonio Goygoechea, le carliste Antonio Lizarza et le lieutenant-général Barrera avaient signé à Rome avec Mussolini un accord par lequel le Duce s'engageait à soutenir leur mouvement pour renverser la République espagnole par des financements et des fournitures d'armes. De 34 à 36, de nombreux jeunes gens avaient suivi en Italie des stages de formation militaire et des stocks d'armes avaient été constitués grâce aux fonds italiens. En février 1936, le climat était si tendu entre les deux Espagnes que le pouvoir se décida à convoquer des élections législatives. Le Frente Popular remporta la victoire et nomma à la tête du pays le républicain progressiste Manuel Azaña. Mais les haines partisanes calquées sur les haines de classe, les discordes infertiles et le ratissement par les partis, les fanatismes de tous bords et leur aveuglement, les ruses manœuvrières pour abuser l'opinion, la déconsidération politique dans laquelle était tenue la République, celle-ci impuissante à mener les réformes nécessaires et notamment agraires, la surenchère des griefs, les scandales financiers qui touchaient les politiciens de l'un et l'autre bord, surpris la main dans le sac. À gauche, Alejandro Leroux, dirigeant d'un gouvernement de coalition de 33-35, impliqué dans des affaires véreuses. À droite, le banquier Juan March, enrichi au sud de tous par la fraude et la contrebande, jeté en prison par la monarchie et devenu dans une hâte suspecte le grand argentier du franquisme, allait conduire à une situation explosive. Le 17 juillet, les garnisons installées au Maroc et aux Canaries se soulevèrent contre le gouvernement légal. Le 19 juillet, le général Franco prit la tête des insurgés. Celui-ci pensait qu'en lâchant ses chiens, toute velléité de résistance se dissiperait en 3 jours. Il fut mal avisé. À la nouvelle du putsch, les syndicats déclenchèrent une grève générale et sommèrent le gouvernement de leur distribuer des armes. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, le gouvernement autorisa leur distribution et releva les soldats de leur devoir d'obéissance aux militaires insurgés. Le coup d'État franquiste mit ainsi debout un peuple qui ignorait sa propre force. Il allait permettre ce que ni les socialistes ni les anarchistes n'auraient jamais pu accomplir par eux-mêmes. La moitié de l'Espagne et les civils principales passèrent en quelques jours entre les mains des révolutionnaires. Tandis que s'affrontaient par les armes les milices populaires et les forces dites nationales, tandis que ces dernières faisaient régner dans les régions qu'elles avaient prises ce que Bernanos n'hésita pas à qualifier de « terreur », tandis qu'une violente répression s'abattait au même moment sur le clergé d'une église hostile à la République et qui prêchait la soumission à l'ordre ancien, des milliers de paysans commencèrent à se partager, sans attendre la loi, les grands domaines agricoles des propriétaires fonciers. Il faut rappeler que dans l'Europe de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, le courant libertaire connut des heures si fastes que les gouvernements mirent en place des moyens drastiques de le réprimer. Mais c'est en Espagne, patrie de l'ingénieux Don Quichotte, lequel s'exténua à secourir les faibles et à courir sus les méchants, c'est en Espagne que ce courant trouva son expression la plus haute, et c'est en Espagne, le temps d'un bref été, que ce courant s'incarna. À partir de juin 36, en effet, d'innombrables villages transformés en communes collectives libres et autogérées vécurent hors du contrôle du pouvoir central, sans police, sans tribunaux, sans patron, sans argent, sans église, sans bureaucratie, sans impôts et dans une paix presque parfaite. C'est cette expérience unique, je crois, que mon oncle José tenta avec quelques autres de reconduire dans son village, et que ma mère, par les hasards de l'histoire qui sont parfois tragiques, parfois glorieux, et souvent les deux, eut la chance inouïe de vivre.